Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, 7 nouveautés, La Petite Vadrouille, Bad Boys Ride or Die, Rendez-vous avec Paul Pot, Tunnel to Summer, En attendant la nuit, Dissidente et Orlando, ma biographie politique. Pour ce qui est de la programmation musicale, on va aller piocher dans plusieurs films, et notamment on va commencer notre semaine cinématographique avec un titre. Oh, ça va rappeler des souvenirs aux personnes âgées, ça. Ça s'appelle Elle était si jolie, c'est Alain Barrière, et c'est un titre qu'on entend dans le film La Petite Vadrouille. Mais là, c'est pour, sur Radio Alpa, 107.3 FM. On l'a déjà passé, ça a déjà servi dans un film, je ne sais plus lequel, mais ça a déjà servi. Très jolie chanson d'ailleurs.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait. Et le vent me disait, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui mais elle est partie. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne qui le noie le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles. Sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier.
Elle était si jolie, Alain Barrière, un titre que l'on entend dans le film La Petite Vadrouille. Bien, c'est le moment de parler de La Petite Vadrouille. C'est un film de Bruno Podalides, acteur, réalisateur, scénariste, né en 61. Il a commencé par les courts-métrages et puis 92, un premier long-métrage, Versailles, Rive Gauche, avec Denis Podalides, son frère, Philippe Huchant, etc., etc. 97, Dieu seul me voit, sous-titré Versailles Chantier. Avec Denis Podalides. Alors, je ne vais pas citer tous les acteurs chaque fois, parce que c'est toujours les mêmes. Hein,
ah oui.
2000, Liberté Oléron. Oléron, pardon, Liberté Oléron. Là, les mêmes, il y avait aussi Guylaine Londez. 2003, Le Mystère de la Chambre Jaune, avec là aussi Pierre Arditi, Catherine Claude Rich. 2004, La Suite, Le Parfum de la Dame en Noir, avec les mêmes. C'était une adaptation des aventures de Rouletabille, tout ça. Hein. 2009, Bon Public, Versailles, Rive Droite, cette fois-ci. 2012, Adieu Berthe ou l'enterrement de Mémé, il y avait Valérie Lemercier là. 2014, Comme un avion avec Agnès Jaoui. 2018, Bécassine, là c'est un petit peu un film un peu à part dans sa filmographie, il y avait Karine Viard aussi. 2021, Les Deux Alfred, et 2023, Waouh, avec Karine Viard, Sabine Azéma, il y avait Eddie Mitchell également dans ce film. Le film La Petite Vadrouille proposé au Pathé Quinconce, au Méga CGR et au cinéaste avec deux séances simplement par jour. Et Pierre vous en dit plus sur le synopsis et la revue de presse de ce film de Denis Podalydès, de Bruno Podalydès, pardon, Bruno Podalydès.
Durée 1h36 avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin et Denis Podalydès. Le synopsis, Justine, son mari et toute leur bande d'amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. Organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. La revue de presse, Ouest France avec Thierry Chaise. Cette comédie d'arnaque est un festival de quiproquos et de douces dingueries, orchestrée avec une finesse et un sens du rythme qui ne se dément jamais au fil de ses 96 minutes. L'Obs avec Isabelle Danel. Tournée en scope, baignée d'une belle lumière chaude, cette joyeuse balade est un bienfait. La Croix avec Céline Rouden. Au fil de l'eau, le réalisateur nous embarque dans une comédie loufoque et tendre qui célèbre la magie de l'illusion. Le Figaro avec Eric Neuhoff. En capitaine de bateau, Bruno Podalydès embarque sa jolie troupe dans une escapade poétique, un film doux en forme d'hymne à la joie. Le Point avec Florence Colombani, Baudouin Echappas et Alice Durand. Le charme de cette comédie tient à un subtil cocktail, une galerie de personnages vivants, comme souvent chez Bruno Podalydès, dans une forme de rêve qui confine à la folie douce, un scénario qui dépeint de manière allégorique la violence de notre société, dont on échappe qu'en adhérant à une communauté fraternelle, mais aussi et surtout une formidable distribution. Les Inrecuptibles, avec Jean-Baptiste Morin, on retrouve toute la poésie, l'humour et le sens du cadre du réalisateur dans cette croisière qui s'amuse en très bonne compagnie. Télérama avec Louis Guichard, Bruno Podalydès ne donne pas dans le cinéma à sujet, il tient son cap humoristique qui passe par le choix des mots, expression et intonation, autant que par les postures et les gestes. À cet égard, au milieu d'une troupe exquise, majoritairement fidèle au réalisateur, la présence et la prestation inattendue de Daniel Auteuil constituent la meilleure surprise de la petite vadrouille. Première avec Damien Leblanc. Si le récit de ce bidonnage, inspiré en partie du « To be or not to be » d'Ernst Lubitsch, est prétexte à filmer une pétillante valse de mensonges au sein d'une nature verdoyante, la réussite comique tient aussi à la performance enthousiaste de Daniel Auteuil. Et enfin, Télé 7 jours avec Isabelle Magnier. Tout n'est pas abouti. Le dénouement laisse un goût d'inachevé, mais on passe un excellent moment en compagnie des fidèles comédiens du réalisateur avec le nouveau venu Daniel Auteuil, ravi d'incarner le séducteur pas si naïf que cela.
Voilà, donc La Petite Vadrouille, proposée par les cinéastes, le Pathé Quinconce et le Méga CGR. Donc, afin de satisfaire la demande de son patron, Franck, un riche homme d'affaires, de lui organiser un week-end surprise pour lui et une femme mystérieuse, Justine monte avec son mari et sa bande de potes, tous plus ou moins dans la dèche, une petite escroquerie. Cette escroquerie, c'est l'organisation d'une croisière fluviale romantique sur les canaux de l'ouest de la France, visant à faire dépenser à Franck le maximum d'argent à leur profit, à coup de petites combines juteuses, l'espère-t-il en tous les cas. Mais au moment d'embarquer, Franck avoue à Justine que l'invité surprise, c'est elle. C'est le début d'un boat movie, on va dire comme ça, puisque ça se passe sur un bateau, une péniche, qui se veut plein de fantaisie, que ce soit au niveau des personnages, tous plus farfelus les uns que les autres, ou bien des accessoires, même aussi loufoques. Au total, Bruno Podalydès, qui a embarqué dans l'aventure sa bande d'acteurs habituels, d'acteurs fétiches, plus Daniel Auteuil, nous propose une sorte de vaudeville. Moi, je trouvais ça un peu vieillot, qui se veut sans doute pittoresque et poétique. Moi, ça m'a laissé vraiment sur ma faim, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Le rythme est calqué sur l'allure de la péniche et que les gags peinent à faire sourire, voire même tombent à plat. Ça m'a rappelé un petit peu un film, le dernier film de Pascal Thomas, Le Voyage en pyjama, un petit peu cet esprit-là. Un film dilettante qui se termine d'ailleurs un petit peu en queue de poisson. Alors heureusement, les acteurs sont bons, c'est quand même le moins qu'on puisse attendre d'eux. Hein, Pierre, qu'en penses-tu ?
Alors, la petite vadrouille, allusion à la grande vadrouille.
Eh oui.
En fait, non, rien à voir en ce qui concerne l'histoire. Il s'agit là, non pas d'un road movie, mais moi, je l'ai appelé un canal movie.
Bah oui.
Avec une jolie péniche. La distribution est alléchante, effectivement. Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, les frères Podalydès, tous nous emmènent en balade sur un canal truffé d'écluses. Les dialogues et les situations sont plutôt drôles, mais aussi parfois nunuches. C'est une comédie légère, avec parfois des passages façon comédie musicale, et aussi beaucoup d'illustrations instrumentales, très diversifiées. Ça m'a fait penser des fois à Tati, d'ailleurs.
Oh oui,
bref, on passe un bon moment champêtre et on rit régulièrement tout de même.
Bon, il a apprécié davantage que moi, Pierre, c'est clair.
Sans plus.
Bon, Bad Boys Ride or Die. Alors, Bad Boys Ride or Die, c'est au Colisée, au Pâté Quinconce, au Méga CGR. Alors, Bad Boys Ride or Die, on peut le voir avec quelques séances en VO, mais il faut vraiment aller chercher. Et puis sinon, bien, toujours pareil pour ce genre de film, en salle Ice au Méga CGR ou en salle 4DX au Pâté Quinconce, mais on peut le voir aussi en séance tout à fait normale, sans agitation des sièges ou sans son dingue. Bad Boys Ride or Die, c'est un film de deux réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilal Fala, réalisateurs, scénaristes et producteurs. Ils ont réalisé auparavant en 2014 Images pour la plateforme Netflix, en 2018 Gangsta, 2020 Bad Boy for Life, le précédent Bad Boy, hein, et 2022 Rebel avec Lubna Azabal, et puis ils ont aussi à leur actif des épisodes de séries. Pierre, dis-nous davantage de choses sur Bad Boys Ride or Die.
Alors, vous allez le voir, les avis sont très partagés.
Voire franchement pas bon.
Oh, franchement pas bon, oui. 1h55 avec Will Smith, Martin Lawrence et Vanessa Hudgens. Synopsis, cet été, la franchise Bad Boys est de retour, avec son mélange iconique d'action explosive et d'humour irrévérencieux. Mais cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. La revue de presse, le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech. Le tandem de flics iconiques revient pour une quatrième aventure qui remplit allègrement son cahier des charges avec ses courses-poursuites, fusillades et explosions. Un blockbuster survitaminé qui équilibre action et humour. Le Parisien avec Michel Valentin. Comme il l'avait déjà fait dans la série Mrs. Marvel, les deux réalisateurs triturent les techniques cinématographiques, insérant des séquences dignes de jeux vidéo ou des prises de vue effectuées par des drones tourbillonnants. Un coup de jeune qui sied à merveille à ces bad boys toujours aussi déjantés. Le Point, avec Florence Colombani, Baudouin Echappas et Alice Durand, Bad Boys Ride or Die ne brille ni par sa finesse ni par son originalité, mais il garantit un divertissement pur et simple, et c'est bien tout ce qu'on lui demande. Première avec Sylvestre Picard, une réussite toute relative, soyons clairs, on est dans l'univers Bad Boys, qui repose sur la dynamique entre les blagues plus ou moins grasses de Martin Lawrence et le flegme fatigué de Will Smith, le long d'une intrigue policière aussi classique qu'une bavure, mais voilà, on sent que tout le monde est là et que le film est investi. Et puis maintenant, ceux qui n'ont pas aimé, c'est Caroline Vier, par exemple, dans 20 minutes. Bad Boys, Ride or Die, propose le titre du film qui est celui de trop. On ne leur souhaite pas de mourir, mais prendre leur retraite pourrait être judicieux. Écran large avec Antoine Déru, un blockbuster fainéant et franchement triste à l'image du jeunisme embarrassant de Will Smith et Martin Lawrence. Le Figaro, le programme ne change pas, cascades spectaculaires et blagues en dessous de la ceinture, fatigant pour les yeux et les oreilles, reposant pour le cerveau. Et enfin, les Inoccupables avec Théo Ribeton, on ne voit plus dans Bad Boys qu'une beaufrie sans génie et un formalisme qui fait désormais l'effet d'un cache-misère.
Bad Boys Ride or Die au Colisée, au Méga CGR, au Pâté Quinconce, 4DX, certaines séances au Pâté, Ice au Méga CGR, quelques séances en VO, il faut les chercher, mais enfin bon. Voilà, donc c'est à réserver exclusivement aux amateurs de films d'action et aux fans de la saga, dont c'est le quatrième épisode, et à ce trou, et à ce titre, on y retrouve, outre les deux héros principaux, tout un tas de personnages des films précédents, famille, flics, ex, et comme d'habitude, bien que le film se passe 4 ans après le précédent, on est censé se souvenir de ce qui s'est produit comme événement auparavant, et de se souvenir notamment des liens entre les différents personnages, ce qui est au-dessus de ma mémoire, enfin, tout simplement. Alors cette fois-ci, Mike et Marcus vont se retrouver dans la peau des traqués, dans cette histoire de ripoux infiltrés dans la police qui met en cause leur ancien patron décédé dans l'épisode précédent et dont ils vont chercher à prouver l'innocence pour sauver son honneur et le leur par la même occasion. Alors l'intrigue est si nébuleuse qu'on finit par s'en ficher complètement. Dès lors, le film accumule tout ce que je trouve être les défauts de ce genre de blockbuster américain depuis des années, mais c'est moi qui trouve ça, parce que ça doit plaire au public, puisque c'est ce qu'on lui propose sans cesse. Donc, qu'est-ce que je reproche ? Trop de personnages secondaires, trop de rebondissements, trop de dilemmes bidons, bref, une histoire qui manque de simplicité et d'intérêt. Mais, si on fait abstraction de tout cela, et c'est quand même pas simple, on a un film hyper dynamique, réalisé avec toutes sortes de caméras novatrices et de drones, qui permettent des plans incroyables, et à cela s'ajoute un montage hyper speedé, il ne doit pas y avoir un plan qui doit durer plus de 2 secondes pratiquement, c'est un délire pour les yeux, ça je vous le dis tout de suite. Bon bref, un film, pour le reste, eh bien, c'est une alternance donc, de scènes d'action, avec donc force explosion, gunfight, baston, course-poursuite, et ça alterne donc avec des scènes de comédie entre les deux héros, avec... de nombreux dialogues à punchline, souvent un peu bas de plafond, et ça, il faut bien le reconnaître. Mais bon, c'est l'ADN, comme on dit aujourd'hui, de la franchise. Donc, rien de nouveau dans le programme proposé, une sorte de routine dans la démesure et le too much. C'est fidèle à l'esprit des autres épisodes, c'est du cinéma un peu bourrin, quoi. Hein. Quand je dis un peu, c'est même beaucoup bourrin. Bref, de la surenchère au service d'un cinéma de pur divertissement, sans autre enjeu que de passer 2 heures en ayant plein les yeux et les oreilles, on pourrait même en risquer l'overdose. Espérons que ce soit le dernier des épisodes, parce qu'on ne voit pas comment cela pourrait se renouveler. Et puis, Martin Lawrence et Will Smith commencent à faire leur âge quand même. Hein, voilà. Donc, pour les fans de films d'action, voilà, exclusivement. Allez, pause musicale, un titre qu'on a déjà entendu dans Clap, et c'est un titre de Petula Clark qu'on entend dans le film En attendant la nuit, et le titre c'est La nuit porte conseil. Ça va rappeler le son des années 60 à notre ami Pierre. Mm-hmm.
La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus, et j'attends que quelque chose vienne, mais je ne sais qui, je ne sais quoi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires.
La nuit n'en finit plus, Petula Clark. Vous allez me dire, mais on n'est plus sur Radio Alpa, on n'est même pas sur Nostalgie, parce que c'est encore plus vieux que ça. Tout ça, elle était si jolie, c'est les années 60, Petula Clark aussi. Et On pourrait écouter aussi Santiano du Gaufret.
Ah oui, c'est vrai. Et
oui, parce qu'on entend dans le film La petite vadrouille. Mais bon, oui. Voilà, vous ne l'aurez pas, je ne pense pas, cette semaine. Pourtant, je l'ai dans mon ordinateur. Là. Rendez-vous avec Pol Pot. C'est un film proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. C'est un film de Ritipan, réalisateur, scénariste, monteur cambodgien, né en 64. Il a à son actif de très nombreux documentaires. Et puis, en 94, un film sorti sur les grands écrans, Les gens de la rizière. 98, Un soir après la guerre. 2002, S21, La machine de mort Khmer Rouge, un documentaire. 2005, Les artistes du théâtre brûlé, documentaire. Film de fiction en 2007, Un barrage contre le Pacifique, d'après le roman de Marguerite Duras, avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. En 2007, Le papier ne peut pas envelopper la braise, un documentaire. 2011, Dush, Le maître des forges de l'enfer. 2013, L'image manquante, un documentaire là aussi. Et 2018, Les tombeaux sans nom. 2022, Irradié. Et 2022 également, Everything Will Be Okay. Ça, c'était pour Arte. Voilà donc la filmographie de Ritipan, dont beaucoup de films ont été consacrés au génocide cambodgien qu'il a lui-même vécu dans sa chair. Pierre, rendez-vous avec Pol Pot. Qu'est-ce que tu nous en dis?
Durée 1h52 avec Irène Jacob, Grégoire Collin et Cyril Guéhi. Le synopsis, 1978, depuis 3 ans, le Cambodge, devenu Kampuchea démocratique, est sous le joug de Pol Pot et ses Khmers rouges. Le pays est économiquement exsangue et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans un génocide encore tu. 3 Français ont accepté l'invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot, une journaliste familière du pays, un reporter photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. Mais la réalité qu'ils perçoivent sous la propagande et le traitement qu'on leur réserve vont peu à peu faire basculer les certitudes de chacun. La revue de presse, elle, avec Françoise Delbecq, alternant archives en noir et blanc, fiction en couleur et scènes miniatures avec des figurines en argile, Ritipan signe un récit politique glacial et déchirant sur le cauchemar vécu par le peuple cambodgien. Le journal du dimanche, un film d'une remarquable cohérence sur le regard et l'aveuglement, sujet dépassant le seul génocide cambodgien. Le Parisien avec Catherine Baal, un drame subtil et saisissant. Ouest France avec Thomas Borrez, Ritipan, toujours plus inspiré avec la forme documentaire, parvient toutefois par cette fiction à rendre prégnante une violence sourde qui s'obstine à rester hors champ. Le Monde avec Jacques Mandelbaum, le cinéaste Ritipan poursuit son travail sur les massacres perpétrés par les Khmers Rouges en multipliant excessivement les registres. Télérama avec Marie Sauvion, le réalisateur de l'image manquante ausculte à travers la fiction la terreur khmère au Cambodge. Il en tire un film inattendu qui mêle habilement différents registres. Et puis ceux qui n'ont pas aimé. Les Inrecuptibles avec Théo Ribeton, l'obsédante quête de l'image manquante du cinéaste, s'encombre d'une lourdeur regrettable. Et enfin, Libération avec Didier Perron, inspiré d'une histoire vraie, le film suit des Occidentaux dans le Cambodge des Khmers Rouges à travers un mélange sans ferveur de fiction, d'archives et de reconstitution.
Rendez-vous avec Pol Pot, c'est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. On est en 1978 et à l'invitation du régime, ils sont 3 journalistes venus au Kampuchea démocratique, comme on appelait le Cambodge à ce moment-là. Ils sont venus témoigner des réalisations du gouvernement de Pol Pot et obtenir aussi une interview de ce dernier afin de contrecarrer ce qu'à l'extérieur du pays commençait à émettre, les gens commençaient à émettre au minimum des réserves à l'égard de ce régime. Eh bien, eux, ils sont venus là, en quelque sorte, voir de leurs yeux et conforter la propagande du régime. Parmi ces 3 journalistes, l'un d'eux plus que complaisant, puisque ancien camarade du frère numéro 1, c'était le surnom de Pol Pot, quand il était étudiant à Paris. Alors, frère numéro 1, c'est pas le surnom quand il était étudiant à Paris, c'est le journaliste qui est un ancien camarade de Pol Pot quand il était étudiant à Paris, quand il faisait ses études, quand ils faisaient ensemble leurs études à Paris. Les 2 autres deviennent rapidement circonspects sur la réalité telle qu'elle leur est présentée. Puis, ils ouvrent véritablement les yeux sur les actions menées malgré la propagande incessante du régime à laquelle ils sont soumis. Donc, c'est un film où alternent quelques images d'archives, pas tant que ça d'ailleurs, des images d'archives, reconstitution des événements vécus par le trio sous forme de maquettes et de figurines en terre cuite et le film lui-même racontant l'histoire de ces trois reporters. Alors, c'est un film, moi, j'ai trouvé triplement intéressant. D'abord, par son évocation du génocide commis par les Khmers rouges au pouvoir, avec une violence que certains l'ont souligné dans parmi les critiques, une violence hors champ, mais suggérée de façon très efficace. Intéressant aussi par la description de ce qu'on appelle les idiots utiles. Les idiots utiles sont ces intellectuels occidentaux aveuglés et à la solde d'un régime dont ils n'avaient pas perçu la réalité à cause de leur propre idéologie. Et puis c'est aussi intéressant parce que le film ne dit pas, et ce qu'il ne dit pas, c'est que encore aujourd'hui, eh bien, il y a des idiots utiles pour d'autres causes. Alors les autres causes, ben, vous les connaissez, celles qui sont dans l'actualité actuelle, des gens qui soutiennent des causes dont ils seront les premières victimes si ces gens-là arrivent au pouvoir. Mais enfin, bon, passons. Donc c'est un film fort utile, mais avec quelques petits défauts, ça et là, notamment un manque d'explication pour certains faits, notamment sur la fin, des choses qui ne sont pas très claires, alors je ne les ai pas vraiment saisies. Et c'est réalisé par, évidemment, le spécialiste au cinéma de ce génocide, parce que c'est un vrai génocide, cambodgien. Voilà, donc c'est un film que moi, je recommande, c'est d'ailleurs le film que j'ai le plus apprécié cette semaine. Rendez-vous avec Pol Pot, et c'est proposé uniquement aux cinéastes, bien entendu. Tunnel to Summer, là aussi, c'est proposé au cinéaste, un film d'animation japonais de Tomohisa Taguchi. Tomohisa Taguchi, c'est un réalisateur, donc je le disais, japonais. Il avait réalisé en 2020 Digimon Adventure, Last Evolution. Donc, moi, je ne sais pas si le film est sorti. Certainement, il a dû sortir, puisque je n'ai pas noté qu'il n'était pas sorti, mais c'était un film d'animation. Donc, ce réalisateur scénariste, il est né en 85, et c'est un spécialiste du cinéma d'animation. Selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire de plus cher, mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Anzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l'aventure. Mais qu'attend-elle de lui en échange? Et que lui restera-t-il une fois qu'il aura traversé le tunnel? Voilà les questions que pose le film d'une durée d'une heure 24. Kelu Parente, dans l'écran fantastique, déclare Tomohisa Taguchi, dont c'est la première adaptation d'un roman illustré, signe avec Tunnel to Summer, un grand film romantique. Renaud Baronian, le Parisien, si la réussite du film est totale, c'est parce que son réalisateur en met plein les yeux sur le plan graphique, privilégiant un déluge de couleurs et des contrastes appuyés dans le tunnel surnaturel. Il ose le pastel et les camaïeux de gris dans le monde réel, se risquant lors des gros plans sur les personnages à des cadrages impossibles et... Renaud Baronian conclut par cet adjectif magique. Adrien Gombeau, les échos, deux adolescents, la naissance du sentiment amoureux et un tunnel merveilleux, un film d'animation japonais sensuel et élégant. West France déclare que c'est un passionnant voyage dans l'espace-temps. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, une fable mélancolique et fantastique, au scénario inventif et à la mise en scène onirique. Thierry Chaise dans Première, poétique, sensible mais jamais larmoyant, Tunnel to Summer parle avec la même superbe des cœurs qui s'emballent pour la première fois que de deuil et de la difficulté à se séparer de l'être cher. Charlotte Martin de Frémont dans La Croix, inspiré du mythe d'Orphée, ce film d'animation japonais sur le travail de deuil au scénario un brin prévisible offre de beaux moments d'animation. Laurent Dijon dans Télé 7 jours, certaines images sidèrent par leur beauté, telles cette allée d'érable aux feuilles ocre lumineuses dans le tunnel. On regarde un récit en rien trop précipité, même si le final, d'un romantisme échevelé, serre le cœur. Et Marius Chapuis dans Libération, deux ados tristes découvrent une caverne magique dans un film d'animation japonais lacrymal qui n'ose rien. Eh bien, notre spécialiste du cinéma japonais n'est pas un spécialiste du cinéma d'animation, et donc Pierre n'est pas allé voir Tunnel to Summer.
Non, dessin animé, non, pas vraiment.
Je sais bien. Ben, c'est comme ça. En attendant la nuit, c'est un film qui est proposé cette fois-ci uniquement au Pâté Quinconce. C'est un film de Céline Rouzet. Céline Rouzet, c'est une réalisatrice française. Elle avait réalisé en 2022 140 km à l'ouest du paradis, un documentaire. Je ne sais pas si le film avait été proposé au cinéaste, peut-être après tout. Mais cette fois, Céline Rouzet est réalisatrice et scénariste de ce film d'une heure 44. Avec Céleste Brunkel, Élodie Bouchèze et un nouveau qui s'appelle Mathias Legout-Hamon. Philémon est un adolescent, pas comme les autres. Pour survivre, il a besoin de sang humain. Dans la banlieue pavillonnaire un peu trop tranquille où il emménage avec sa famille, il fait tout pour se fondre dans le décor, jusqu'au jour où il tombe amoureux de sa voisine Camilla et attire l'attention sur eux. La presse, eh bien, le journal du dimanche. Le film prolonge la réflexion sur le monstre innocent stigmatisé par l'opinion publique, évoquant ainsi Elephant Man de David Lynch ou Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Un drame intime privilégiant le fantastique au naturalisme pour une mise en scène, une mise à distance nécessaire. Marie-Lou Dupont-Chel, Les Inoccupables, un film qui ne cesse de regarder la famille à la fois comme un poison et un refuge, l'amour comme une substance addictive, et s'interroge sur la question de l'identité et de la manière dont, perméable, elle mute au contact des autres. Thierry Chasse dans West France parle d'un film de monstre, pas comme les autres. Étienne Sorin, Le Figaro, un adolescent qui se nourrit de sang, tombe amoureux de sa voisine et bouleverse le quotidien familial. Un film séduisant. Michel Valentin, Le Parisien, la réalisatrice Céline Rouzet, dont ce n'est que le deuxième long métrage, apporte quelques idées de scénario original, mais son histoire chemine sur un rythme un peu inégal et se conclut avec une fin qu'on voit venir, hélas, trop rapidement. Sophie Graciano Lopes, excellent programme que Céline Rouzet, indéniable capacité à installer une atmosphère, mouvement de caméra léché, vraie réflexion sur la marge, référence au genre, et donc excellent programme que vient minorer Céline Rouzet en l'inscrivant dans les codes d'un teen movie plus convenu. Alors j'ai vu moi donc ce film en attendant la nuit et je ne suis pas aussi enthousiaste que les critiques. Philémon, ben, depuis sa naissance, doit se nourrir de sang humain. Bon, eh ben, devenu ado, 17 ans plus tard, il emménage avec sa famille dans une banlieue pavillonnaire proprette et il tombe amoureux d'une jeune voisine. Et c'est là que les ennuis vont commencer pour lui et ses parents, car son besoin de sang devient irrépressible. Voilà, c'est une façon de vaguement revisiter le film de vampire sans tout son folklore et ses effets. Hein. Là, il n'y a pas besoin de... Il se voit dans la glace, il peut sortir en plein jour, sauf qu'il plutôt, il doit rester à l'ombre. Il n'a pas de canine proéminente, donc il n'y a pas tout le folklore du film, folklore habituel des films de vampires. Disons que le film, c'est une manière métaphorique d'évoquer les tourments de l'adolescence, comme la découverte de l'amour, l'opposition aux parents, la quête d'identité, l'acceptation de la différence. Bon, bref, c'est du déjà-vu comme thématique. Moi, je n'ai pas trouvé ça très très adroitement filmé, je peux trouver ça vraiment maîtrisé, c'est un film de genre français qui est vraiment très loin de m'avoir convaincu tant il manque de cohérence. On en sauvera éventuellement le duo de jeunes acteurs parce que sur ce thème là et dans ce registre du fantastique on a quand même vu souvent bien mieux. Donc surtout pas un film à recommander aux amateurs de films d'horreur, parce que c'est pas un film d'horreur du tout, pas de gore du tout, alors si peu, mais c'est vraiment, peut-être que pour Pierre ça serait trop gore, mais franchement quand on a vu un vrai film gore comme j'en ai vu un moi, la semaine d'avant, c'est gentil quoi, franchement c'est plutôt un teen movie, très loin de valoir par exemple un film qui est sorti il y a quelques semaines, que le cinéaste avait proposé d'ailleurs et que j'avais vu moi au Mégastigère, et ce film s'appelait Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. C'était quasiment sur le même thème, dans le même registre, mais c'était bien plus réussi. Et là, bon, celui-là, j'ai vraiment du mal à vous le recommander. Même, je vous éviterai de dépenser la somme de plus de 12,90€ au Pâté Quinconce si vous n'avez pas de réduction pour aller le voir. Voilà, ça s'appelle En attendant la nuit. Eh bien, justement, dans En attendant la nuit, à la fin, on entend ce titre. C'est le groupe Hole, connu pour Courtney Love. Courtney Love, c'est la compagne de Kurt Cobain. Et c'est le titre Violet, sur Radio El Pense, 7.3 FM Le Mans. Et on entend, donc, je répète ce titre à la fin du film En attendant la nuit. Et là, c'est sur Radio El Pense, 7.3 FM Le Mans. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Never wanted again. They get what they want.
violent, but violent, more violent. Yeah, I'm the one with no soul. One above and one below.
Violette, le groupe Hole avec Courtney Love, la preuve que dans Clap, on passe toutes les musiques, hein, parce que c'est quand même très différent d'Alain Barrière. Ça,
ah
hein
oui, ça bon. C'est sûr.
Alors, Dissidente. Dissidente, c'est un film de Pierre-Philippe Chevigny, un film canadien, duré 1h29, proposé par les cinéastes, avec 2 séances par jour. Pierre-Philippe Chevigny, c'est un réalisateur scénariste qui est né en 88, il a son actif des courts-métrages, mais c'est son premier long-métrage à Richelieu, ville industrielle du Québec. Ariane est embauchée dans une mine en tant que dans une usine en tant que traductrice. Elle se rend rapidement compte des conditions de travail déplorables imposées aux ouvriers guatémaltèques. Tiraillée, elle entreprend à ses risques et périls de dénoncer leurs conditions. Pablo Patarin, L'Humanité, Pierre-Philippe Chevigny livre un premier film choc où des travailleurs étrangers guatémaltèques subissent de plein fouet la violence sociale dans une usine au Québec. Sophie Grassin dans l'Obs, plan séquence, mise en scène immersive, tension suffocante pour réaliser cette fiction quasi-documentaire, politique et émouvante qui a raflé pas mal de prix dans les festivals. Le cinéaste a enquêté plus de 10 ans. Guillemette Onicino Télérama, prenant de la première à la dernière minute avec un sens bluffant de l'immersion, Dissidente détaille dans une once de manichéisme les rapports de force entre exploités de tous les niveaux de la chaîne économique. Voilà. Pierre a vu Dissidente et il vous en
oui,
parle.
Ben, je ne suis pas trop d'accord avec les critiques parce que je n'ai pas trop aimé. Moi. Ce film canadien est sous-titré, ce qui nous soulage quand même de la compréhension d'un français très déformé tel qu'il est parlé au Québec. Et là, surtout dans ce film, je ne comprenais rien du tout. Heureusement qu'il y avait les sous-titres. Il y a aussi de l'espagnol d'ailleurs, donc vive les sous-titres. C'est un film social sur la surexploitation de la main-d'œuvre étrangère venue dans cette histoire du Guatemala et aussi un peu du Mexique. C'est donc un thème intéressant. Oui, mais voilà, je trouve que ce film a des longueurs. Par exemple, la scène à l'hôpital, un peu gore, où on voit un ouvrier qui vomit du sang et ça dure, c'est interminable. Il est parfois aussi répétitif. Alors donc, en fait, de drame social, moi je préfère, et de très loin, les œuvres de Ken Loach.
Bon, eh ben c'est dit. Dissidente, c'est au cinéaste, 2 séances par jour. Orlando, ma biographie politique, c'est aussi au cinéaste, mais là, une seule séance par jour, sauf lundi. C'est un film de Paul B. Preciado. Paul B. Preciado, c'est un réalisateur scénariste franco-espagnol né en 70 et c'est son premier long métrage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Orlando, ma biographie politique? Eh bien, Pierre va nous le dire.
Durée 1h38, le synopsis. En 1928, Virginia Woolf écrit Orlando, le premier roman dans lequel le personnage principal change de sexe au milieu de l'histoire. Un siècle plus tard, l'écrivain et activiste trans Paul B. Preciado décide d'envoyer une lettre cinématographique à Virginia Woolf. Son Orlando est sorti de sa fiction et vit une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La revue de presse, Les Inrecuptibles avec Bruno Deruisseau. Le premier film du philosophe Paul B. Preciado est une merveille d'intelligence, de révolte, de drôlerie et de douceur. L'humanité avec Sophie Joubert. Dans un dialogue avec le roman de Virginia Woolf, le philosophe Paul B. Preciado mène une réflexion sur la transidentité et la non-binarité, une fascinante autobiographie collective. L'Obs avec Xavier Le Herpeur. On pourrait redouter un documentaire didactique sur les difficultés de s'accomplir, mais le film respire l'optimisme et la joie pétillante, sans être pour autant candide. Libération avec Luc Chessel, mêlant réel et fiction, autobiographie et récit à plusieurs voix, l'écrivain Paul B. Preciado s'empare du personnage polymorphe de Virginia Woolf dans un lumineux documentaire politique et le fait s'incarner en de multiples existences trans et non binaires.
Voilà, c'était Orlando, ma biographie politique. C'est un documentaire qu'on peut voir au cinéaste avec une séance par jour, sauf lundi. À la demande générale, nous allons passer Hugo Frey.
On
a le temps, absolument. Donc, Hugo Frey, Santiano. Je ne sais pas si ça se chante encore aujourd'hui.
Alors, dans le film, ce n'était pas la version originale. Je crois que c'est version qu'il a rechantée.
Justement, je crois que c'est celle-là que je vais vous proposer.
Oui, oui.
Voilà. Et donc, je ne sais pas si ça se chante toujours, ça.
Oh, si.
Bah, c'est cette version-là.
Oui, tout à fait. Voilà.
J'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Bien bon la barque et bien bon le vent. Iséo, Santiano, si Dieu veut que je vois devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Iséo, Santiano, on trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Bien bon la vague et bien bon le vent. Iséo, Santiano, si Dieu veut que je vois devant, nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai. J'ai le cadeau, Iséo, Santiano, au pays, j'irai voir ma peau, à son droit, je passerai l'anneau. Hey!
Santiano, version Bagade, c'est la version qu'on entend dans le film d'ailleurs, La Petite Vadrouille. Il faut savoir quand même que Hugo Frey a 94 ans, ça doit bien être le doyen des chanteurs français, et il a encore bon pied bon oeil, hein, moi, pour l'avoir vu dans des émissions de télé il n'y a pas si longtemps que ça, je signe tout de suite pour être comme lui à 94 ans. Voilà, donc les films de cette semaine, on en a parlé. La semaine prochaine, qu'allons-nous voir ? Eh bien, à l'avant-première, ce soir, vendredi, si vous nous écoutez en direct, eh bien, c'est à 20h Oméga et à 22h au Pathé, Les Guetteurs. Les Guetteurs, c'est un film d'horreur de la fille de M. Night Shyamalan. Elle s'appelle Ishana Shyamalan. Pierre n'ira pas voir ça.
Ah non ?
Non, mais il ira peut-être voir les autres films qui sortiront mercredi. Par exemple, Paradis. Paris, de Marjane Satrapi, avec un beau casting. Il y a notamment Monica Bellucci, André Lussolier, Roche Dizem. Juliette au printemps, de Blandine Lenoir, avec Jean-Pierre Darroussin, Isia Higelin.
Oui.
Gloria, de Margherita Vicario, un film italien qui se passe au XVIIIe siècle, me semble-t-il. Et puis Love Lies Bleeding, un film avec Kristen Stewart, qui sera proposé par les cinéastes. Voilà, ça fait pas beaucoup de films, mais bon, après tout, on s'en contentera. Cette semaine, Pierre, tu recommandes...
Bon, La Petite Vadrouille.
La Petite Vadrouille, ouais. Bon, mais moi, je recommande le rendez-vous avec Pol Pot. En tous les cas, c'est le film qui a le plus plu cette semaine. Voilà, cette semaine cinématographique s'achève pour nous, et nous, on se retrouve très probablement la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.